J'aborde là ma troisième partie. Quels sont les enjeux là qu'on peut dégager autour de cette crise du sexe oral? J'en vois cinq. Et après, je laisserai la parole. Tout d'abord, là, j'en ai parlé là au cours d'une émission tout à l'heure, c'est le mot de désignation de gouvernant. Là. Le Togo est un condensé, là, je dirais caricatural, de ce qui se passe en Afrique. Bon, si nous restons là sur ce plan de mot de désignation, vous verrez là l'évolution qui s'y passe. De 60 à, je ne sais pas, 90, ben, mot de désignation, c'est le coup d'État. C'est par les coups d'État qu'on désignait nos dirigeants, là, qui viennent là, et puis bon. Et puis, il s'est passé quelque chose en 90, le mur de Berlin a chuté, il y a le vent d'Est, la démocratie, etc. Et là, bon, qui introduit un phénomène nouveau, c'est les élections. On ne peut plus accéder au pouvoir sans passer par les élections, même si elles sont frauduleuses. On est obligé de passer par là. Et ça, c'est un fait nouveau. Et bon, c'est ce qu'on est en train de voir là actuellement au Togo. Ça, c'est les années 90. Donc, coup d'État, élection frauduleuse, bon, enfin bref. Et là, on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau encore. C'est la dynastisation du pouvoir. Là, transférer le pouvoir à son fils. Là. Ben, c'est ce qu'on est en train de... Et c'est ça le problème. C'est ce qu'on ne veut pas accepter. Ben, pourquoi? Et le Togo était toujours, je le disais, là, dans une émission que vous aurez l'occasion d'écouter, le Togo était toujours un champ d'expérimentation. La coup d'État 63. Ben, on était même fiers d'avoir assassiné, on était les premiers assassinés, là, le président de notre pays. On était fiers, c'est l'acte fondateur du pouvoir Yadema. On était fiers de cela, en 63. Mais 56, c'est au Togo que Gaston Defer a expérimenté sa fameuse loi, la loi cadre Gaston Defer. C'est au Togo. Parce que le Togo, au fond, n'était pas une colonie française. Le Togo était tout d'abord sous mandat, dont la gestion a été confiée à la France, sous mandat des nations, des sociétés, des nations, là, entre les deux guerres. Et puis, sous tutelle, après la Seconde Guerre mondiale, et la France a toujours continué à gérer là. Mais gérer comme une colonie, de fait. De jure, le Togo n'était pas une colonie. Mais de facto, il était une colonie. Et ceci permettait d'expérimenter certaines expériences et après les transférer là. On était une sorte de laboratoire de pépinière. Ben, 2002, c'est au Togo qu'on a modifié la constitution qui permettait au chef de l'État de postuler un troisième mandat. Ouais, c'est au Togo que ça a été expérimenté. Et puis Bongo, bon, l'a copié. Et d'autres, Kérékou voulait, ben, la population béninoise s'est opposée. Mais d'autres, Déby, etc. Et tout. Ouais, on a été toujours, j'emploierai là le terme de Cornevin, Togo nation pilote. Ouais, on était toujours pilote. Dans ces choses-là, dans ces trucs-là, on était toujours nation pilote. Et même quand on remonte là, au début du XXe siècle, c'est-à-dire 1900, etc., à l'époque où les Allemands étaient au Togo, ben, il y a une expression qu'on utilisait souvent, c'est la mystère colonie, colonie modèle. Bon, c'était quoi? C'est que bon, le Togo était... Sinon, la seule colonie qui, à cette époque, a réussi à équilibrer son budget. Alors, bon, on a utilisé l'expression « mystère colonie, colonie modèle » et que, bon, on a transféré dans tous les domaines « Togo, colonie modèle ». Bon, on a été modèle toujours, même dans la docilité, on était modèle. Alors, bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, ben, et cette velléité dynastique, bon, vous trouverez ça chez des gens, des présidents comme Bongo, avec son fils Ali, qu'il est en train de positionner là, avec fureur et tout, bon, pour sa succession. Vous avez au Tchad avec Déby, vous avez la Libye, avec son fils, je ne sais plus comment il s'appelle, Islam, ou je ne sais pas, enfin bref. Bon, si on fait Boigny, là, si on considère que bon, Bédier était le fils naturel de Fouette, bon, lui, il a devancé le Togo depuis. Depuis l'Égypte, Moubarak, bon, il dit, ah non, 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 même, bon. Il y a toujours ces velléités-là, sans parler dans les pays arabes, la Jordanie et consorts, et la Syrie. La Syrie. Ça, c'est le premier enjeu. Second enjeu, c'est la crédibilité même de ces organisations panafricaines, à savoir la CEDEAO et l'Union africaine. Ben, qui jouent un jeu, on le comprend, mais ils sont en train de jouer leur crédibilité au Togo. Ça, c'est clair. Si fort passe, et dans n'importe quel contexte, élection transparente ou pas, ben, ces deux organisations jouent leur crédibilité. Troisième enjeu, c'est le jeu feutré entre les anglophones et les francophones. L'Union africaine, dirigée par, présidée par Obasanjo, le Nigérian, et la CEDEAO, présidée par le Nigérien, ouais, francophone. Ouais. Et la France, ben, ouais, avec son complexe de fachoda, comme on dit, ben, ouais, il joue ses amitiés francophones pour ramener le Nigeria qui dit, ben, moi, je vais intervenir militairement au Togo, dit, ben, écoute, calme-toi, nous, on a la bombe atomique, hein, méfie-toi. Quatrième enjeu, c'est la place de l'ethnie kabyle dans le jeu politique. Ça, c'est important. Dans le jeu politique. Et il y a des mains à configurer, à architecturer le jeu politique de telle sorte que, bon, tout est, malgré eux, malgré les kabyles, tout est centré autour de cette ethnie-là. Sur le plan économique, politique, etc. et tout. Alors, bon, qu'est-ce serait? Et il y a des mains à leur dire. Si je m'en vais, ça serait le chaos. Moi, je m'en irais, mais écoute. Ah ouais. Alors, ben, vous faites quoi? Donc, soutenez-moi. Sinon, ben, vous perdez, hein? Ah ouais. Il leur a toujours dit ça. Ah ouais. Au-delà du discours unité nationale, etc. et tout, ben, il a créé tout un tas de groupes, de groupuscules où il vient leur tenir ce discours tribaliste et c'est rentré dans la tête de certains. Ah ouais. Et qui ont peur. Pour eux, la démocratisation, c'est arracher le pain à la bouche des Kabyles. Et ça, ben, on n'est pas prêt. Alors bon. Quelle serait la place des Kabyles? Ils ont peur. Pas tous, mais leur cerveau, leurs intellectuels, etc., qu'il y a des mains positionnées dans des postes clés, etc., ben oui, on deviendra quoi? Et puis bon, il y a l'armée. Qu'est-ce qu'on fait de cette armée? 13 000 hommes, et vous faites le ratio, ben, je crois que ça doit faire un militaire pour 600 ou 700 personnes à peu près. Ben oui, on est un État surmilitarisé. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette armée? Qui pose aussi le problème des Kabyles, puisque la plupart, une grosse majorité est Kabyles, ouais, qui sont à des postes de commandement, etc., etc. Et le sort de fort. Le sort de fort. Ben, on peut dessiner ça. Peut-être on va le cadavrer. Ou alors il sera embastillé. Ou alors ben, on le verra sur la Côte d'Azur accompagné de Baby Doc. Ah ouais, par exemple. Je ne sais pas. Mais ben, lui aussi pose le problème de sa place. Et tout ça pose quoi? Et quelle question fondamentale? C'est peut-être le thème que nous étudions dans mon groupe de recherche dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire l'institutionnalisation des États africains, et notamment du Togo, où rien n'est institutionnalisé. Les procédures de dévolution ne sont pas institutionnalisées, et ça fait problème. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Où Ofé-Boigny change chaque fois l'article 11 de la Constitution, et c'est devenu un article caméléon, parfois c'est, etc., et finalement c'est Bédié, avec toutes les dérives que ça entraînait. Ouais, c'est ça. quand on ne veut pas respecter les règles qu'on s'est données soi-même, c'est sûr que bon, les règles sont faites pour être transgressées. Très bien, mais avec aussi les conséquences. Ah ouais. Et au Togo, c'est très très flagrant. Il a dit, mais il est parti, mais il n'a rien laissé. Cinquième enjeu, et je terminerai là, c'est l'avenir des relations entre la France et le Togo, sinon entre la France et les pays africains, et spécialement francophones en général. Bon, vous savez, en Côte d'Ivoire, la France a toujours eu une présence très très lourde. Très très lourde. Ben, au Togo, là, proportionnellement à la taille, à la largeur du pays, c'est pareil. La présence de la France est très très importante dans ce pays-là. Et elle craint pour sa place dans ces pays-là. Parce que, bon, chaque fois, on nous dit, oui, les Américains, etc. et tout, bon, bref. C'est que, bon, et ça, c'est ce qu'on a toujours dit ailleurs, notamment à Survie, c'est que qu'on arrive entre la France et ses anciennes colonies à des relations saines, à des relations d'État à État, et non à ces relations mafieuses que l'on connaît, où ces pays pauvres viennent financer les partis politiques en France, etc., et tout même Le Pen en a financé. Ouais. Et qu'on en arrive à des relations saines, que l'on prenne le mot décolonisation au pied de la lettre, comme d'autres pays comme la Grande-Bretagne ont eu ce courage de prendre ce mot au pied de la lettre, qu'on mette du contenu dans le mot indépendance, qu'on ne vide pas, et ceci date du général de Gaulle. Je sais que bon, on aime beaucoup ce monsieur, mais pour les Africains, il n'est pas un libérateur. Il est parti là, je crois c'est en 64, je me rappelle plus, vive le Québec libre. Mais en Afrique, il ne l'a jamais fait. Vive le Cameroun libre. Bon, on aimerait entendre ça de sa part. Mais non. Et qu'un jour, un président français viennent là à l'Assemblée, je ne sais pas, ils n'ont pas le droit d'aller à l'Assemblée, je ne sais pas où, et disent, ben, vive l'Afrique libre, on aimerait entendre ce genre de discours. Mais sinon, à l'heure actuelle, ce qui se prépare au Togo, ben, les élections, je ne sais pas si les élections résoudront le problème togolais. Quand on voit tous les jeux sournois, clandestins, mafieux qui se jouent autour de cette élection, ben, je me dis, si Faure gagne, même de façon transparente et à plus forte raison de façon frauduleuse les élections, ben, ce pays irait à l'explosion. Voilà. Je vous remercie. D'accord.